Pierre, dans Midi Pile, avec Maître Charles Quentin, 87 Kick.
13h29, Maître Quentin, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, très bien.
Beaucoup de choses aujourd'hui. Commençons avec le premier procès de l'année pour meurtre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, celui de Marc-Étienne Côté devant jury. Ça achève. Et je voulais que vous m'expliquiez un petit peu la théorie de la défense. On comprend qu'on prétend qu'il n'y a personne qui a vu réellement Marc-Étienne Côté tirer. Donc, à ce moment-là, il devrait y avoir un acquittement?
Ben, écoutez, est-ce qu'il devrait y avoir un acquittement? Ce sera au jury de décider. C'est sûr que moi, je pense que ce qui est sur quoi, puis on parle uniquement de la défense, là, on connaît la preuve un peu de façon publique, mais je pense que ce que veut mettre en relief la défense, on me corrigera si jamais je me trompe, mais on veut démontrer que par le témoignage de M. Bussière, qui est le premier témoin, on place le tir. Le tir du premier projectile serait à plus ou moins 11 mètres du lieu où a eu lieu où a eu lieu l'altercation entre la victime et M. Côté. Donc, il y a une dichotomie, il y a une espèce de distance entre ce que dit l'expert en balistique ou en projection de tir et la scène de crime en tant que telle. Est-ce que c'est une contradiction? Mais on voit là quand même qu'il y a quelque chose. La scène de crime qui place l'altercation à plus ou moins 10 mètres ou 11 mètres là, du premier tir du projectile. Donc ça m'apparaît un élément qui a été soulevé par la défense, qui n'est pas nécessairement banal non plus là. Ça sera intéressant de voir les directives du juge à cet endroit-là, parce que sur ce chapitre-là, parce que évidemment on parle d'un expert, on parle d'un témoin très important qui est M. Bussière, sur lequel, à mon avis, tablette beaucoup la défense, ne serait-ce sur une question également d'identification. Bon, tu as mentionné d'entrée de jeu, personne n'a vu le tir. Est-ce que quelqu'un aurait vu l'arme en question au moment du tir? Je pense que la réponse est négative. On aurait vu quelque chose de noir, on aurait vu quelque chose... Bon, ça, c'est vraiment pas établi. Donc, c'est sûr que je pense que la défense a plaidé sur cet aspect-là. Et les contradictions au niveau de l'identification, au niveau de la grandeur, au niveau des cheveux, au niveau des particularités physiques. C'est sûr qu'il y a il y a eu des distinctions. Je pense qu'on l'a vu même en début de procès. Il y a eu des différences quand même que la défense considère importantes. Ouais. Ça sera de voir maintenant comment un jury va considérer ça. Parce que c'est bien que dans un semblable procès, au mieux, et n'importe quel procès, la question de l'identité et de l'identification est au premier plan. Il vaut mieux, on dit souvent, vaut mieux sans coupable en liberté qu'un innocent détenu. Donc, c'est vraiment sur ces aspects-là que ça devrait se jouer.
Mais Maître Quentin, à ce moment-là, là, présentement, je veux dire, de ce qu'on, votre bureau n'a aucun lien avec M. Côté présentement. Si je vous mettais la possibilité de placer un 2 en papier sur un verdict du jury à venir...
C'est sûr que je ne me prononcerais pas, C'est parce que, justement, on a même comparu dans ce dossier-là, mais étant donné qu'il y avait des témoins qu'on avait déjà représentés, bon, on n'a pas pu continuer. Donc, c'est sûr que... Mais c'est un dossier qui est extrêmement, je vous dirais, riche en événements, en faits. Et le travail de la défense, évidemment, j'en suis, là, c'est de n'insuffler qu'un doute raisonnable. Vous savez, quand au début, on parlait qu'il y avait... alors qu'il y avait une rixe à l'extérieur, qu'il y avait un combat entre deux personnages, on parlait qu'il y avait une silhouette de 6 personnes qui étaient vues dans la maison où était un des témoins, M. Marquis. Donc après ça, il y a eu des distanciations, des différences qui ont été rapportées. Bon, jusqu'à quel point ça tiendra, ce sera bien malin celui qui peut prédire, mais c'est quand même un dossier qui est très, très, très riche en événements, puis c'est comme je le réitère, il ne faut que mettre un doute raisonnable dans la tête d'un membre du jury, ou dans quelques têtes, là. C'est extrêmement... Et c'est là que les directives du juge vont être très intéressantes à suivre sur, justement, les aspects que je vous ai mentionnés. C'est sûr qu'il y a une directive importante sur la question d'identification, sur qu'est-ce que la notion du doute raisonnable, qu'est-ce que le sacro-saint principe de la présomption d'innocence, ça va être expliqué Il y a un cours de droit qui va se donner lundi matin au Palais de justice de Chicoutimi. Ça sera très intéressant parce que ça peut être, je vous dirais, la clé du dossier. Les directives à l'endroit là, de la question de l'identification, de la question de la scène de crime, de la question également balistique et projection de tir. Chacun a sa théorie, mais c'est vraiment le tribunal qui va cibler, centrer les points d'intérêt et les chapitres sur lesquels devront se prononcer le jury.
Et un commis de dépanneur qui avait vu Marc-Étienne Côté avec le fusil à la ceinture, mais le soir même, ça ne veut pas dire qu'il l'avait encore à cet endroit-là non plus et que c'est lui qui a tiré.
C'est ça. C'est pas contemporain avec l'événement. Faut savoir également tout ce qui a été dit dans ce témoignage-là. C'est sûr que je suis convaincu qu'en défense, on préférait ne pas avoir ce témoignage-là, là. Pas non plus se cacher. Mais d'un autre côté, est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que le contre-interrogatoire a soulevé un doute sur cet aspect-là? J'ai pas suivi le dossier assez de près, mais je pense que c'est beaucoup plus sur les minutes et sur la trame factuelle avec la trame, je vous dirais, au niveau chronologique. Et avec l'expert, les deux experts qui ont témoigné, ça prendra beaucoup plus d'importance à ce niveau-là.
Un mot peut-être sur le cas d'Yves Martin qui voit sa permission d'être en maison de transition prolongée de 6 mois vu sa bonne conduite. Au bout de la ligne, ça se pourrait bien qu'il fasse 5 ans de prison sur 14. On a parlé avec la mère d'une des victimes un peu plus tôt dans l'émission. C'est sûr qu'elle trouve que ça n'a pas de bon sens, surtout pour l'exemplarité. Expliquez-nous comment ça se fait. Tu sais, on entend 14 ans de pénitencier, c'est une peine qui va rentrer dans la tête des gens un peu, qui va donner l'exemple, puis finalement, si on se rend compte qu'il sort après 5 ans...
Faut se décoller de... Quand on fait du droit, quand on fait du plus particulièrement, quand on fait du droit criminel, faut avoir une distance avec les événements, puis il faut être un peu de glace parce que c'est pas facile. Là, on est vraiment entre le châtiment et la réhabilitation. Vous savez, hier, la Cour d'appel s'est prononcée dans un dossier sur les principes de la réhabilitation. Dans ce dossier-là, la sentence était très lourde. Je pense qu'elle était méritée. C'était supporté par la preuve. Le processus des libérations conditionnelles fait son œuvre actuellement. Il y a eu des tests qui ont été effectués à l'endroit de M. Martin. Il y a eu toutes sortes de mesures qui ont été utilisées et employées. Et il faut croire que M. Martin a passé certains tests avec succès, puisque présentement, il va jouir d'une liberté relative. Je prends soin de bien dire relative parce que il s'en va dans une maison de transition, si je me trompe pas. Mm-hmm. Et la maison de transition, il n'y a pas de barreau, mais c'est tout comme.
Mais c'est la dernière étape avant une libération.
Oui, c'est une des étapes avant la libération, oui. Vous avez raison, là, on ferait vraiment le test pour savoir si on peut libérer cet homme. Donc, c'est pas facile pour les familles, pour les gens qui réclament justice, qui réclament un châtiment. Mais ça fait partie des mesures sociales qu'on s'est données. Ça fait partie, je dirais même, jusqu'à la limite des systèmes démocratiques mis en place. Hein. C'est les gens pour qui on vote qui instaurent ces systèmes-là. Ouais. Mais je peux vous dire que c'est pas laissé à la légère. Là. C'est pas, il s'en va pas chez lui au même endroit qu'il restait avant le procès, avant sa mise en accusation. Tout ça est vraiment contrôlé, est vraiment vérifié. Et je me souviens d'une époque où c'était un peu plus facile d'avoir, vous savez, j'ai vu des dossiers où c'était le sixième. Au bout de 2 ans, 2 ans et demi, l'individu était remis en liberté. Il faudrait regarder Vincent Lacroix, qui a fraudé pour des millions et des millions et des millions de personnes, ben pas de personnes, mais de dollars, plusieurs personnes, et vérifier combien de temps qu'il a fait avant de se retrouver dans une maison de transition. Je pense que c'était pas très, très long.
Ça a été très vite, vous avez raison, Maître Quentin. Le temps file, et je veux absolument qu'on parle de Marc-André Bédard. Les gens vont dire, oui, mais c'était pas un homme politique. Bien sûr, mais si on vous en parle, c'est qu'avant d'être un homme politique, c'était un homme de droit, et il a quand même réalisé des choses intéressantes dans le monde du droit, et je pense que ça mérite d'être souligné.
Ben, c'est spécial, parce que c'est avant que je sois criminaliste, monsieur Bédard, là, il était déjà depuis fort longtemps en politique. Moi, je pense que c'était un homme d'une très grande humilité. Moi, je l'ai connu, c'est drôle parce que je l'ai connu en jouant aux cartes. On avait certaines passions pour les cartes. Je l'ai connu au casino de Charlevoix. Il était toujours d'un commerce extrêmement agréable, très gentil, très facile d'approche. Ça a été un grand criminaliste aussi. Tellement un grand criminaliste que sa succession court toujours dans le sens que vous avez eu M. Bédard, vous avez eu Louis-Charles Fournier. Après ça, vous avez eu M. Daniel Gagnon, à l'époque, qui a remplacé M. Maître Fournier. Puis vous avez aujourd'hui Maître Tourangeau, qui est toujours d'actualité, que j'ai rencontré même et salué ce matin. Je lui en ai même parlé. J'ai dit, t'es dans la foulée des traces de Marc-André Bédard. Mais M. Bédard, on l'aura reconnu également comme un grand ministre de la Justice, qui avait un sens de l'égalité et de la non-discrimination très, très, très intense. Ce qu'il a pu faire au niveau de l'avortement, ce qu'il a pu faire également pour... c'est lui qui a amené la loi sur les travaux communautaires. Ne serait-ce que ça, on lui dit merci. Donc, c'était quelqu'un d'innovateur, c'était un grand criminaliste, c'était un homme qui était énormément du peuple. C'est, sérieusement, vous l'avez croisé, je sais que Simon devait le connaître, certains.
Je l'ai croisé quelques fois sans plus, mais...
Mais c'était quelqu'un qui vous aviez l'impression d'être avec un de vos oncles ou vous aviez l'impression d'être avec un de vos amis. Puis c'était vraiment friendly d'être avec M. Bédard.
Très impliqué, puis difficile de dire non. Je me souviens, moi, une fois que je l'ai croisé il y a plusieurs années, c'est quand il faisait les campagnes de financement pour la cathédrale de Chicoutimi, puis on se disait...
Ah oui?
Bon, une entrevue sur la cathédrale de Chicoutimi un matin, là, ça me tente pas tant que ça, mais finalement, il était convaincant.
Ben, c'est sûr que M. Bédard d'une campagne de financement, là, c'est votre kingpin, puis pas à peu près, là. Je peux vous dire que c'était tout un homme à ce niveau-là. Tellement facile, comme je vous disais tout à l'heure, d'une facilité d'approche, puis d'un charisme, là, irrésistible. Tout à fait irrésistible. Ça devait. Malheureusement, j'ai pas joué aux cartes avec lui, René Lévesque, mais ça devait être quelque chose.
Ah, l'histoire des cartes, là, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, ça revient tout le temps. Fait que ça doit être vrai.
Ben, vous savez, il n'y a pas de mal à jouer aux cartes. Hein? C'est un des plus vieux jeux de la Terre. Et cela dit, ça me donne le goût de jouer une petite partie. Là.
Hey, mais quand même, avant qu'on se laisse, est-ce que vous allez louer le combat de Mike Tyson demain?
Non, tu me parles de ça, toi? Heureusement, ouais. Je m'occupe de ça.
Ben oui, demain soir, contre Roy Jones, ça a baissé de prix en plus 50$. Pourquoi pas?
Toi, est-ce que tu l'as loué?
Ben, c'est décidé. On le loue certain.
Bon, ben, c'est super. Mais malheureusement, je peux pas aller chez vous.
Ah, c'est ça le problème, hein? Mais en tout cas, chacun de notre bord, on s'en reparle la semaine prochaine.
C'est excellent.
Salut!
Salut!
Maître Charles Salut. Quentin pour la chronique judiciaire à 13h43.
Fendant et effronté, avouez qu'ils sont aussi très convaincants. L'équipe numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le show du matin.